Arcadia, Jacques Lavergne, bonjour. Arcadia, l'émission résiliente, c'est une triste chose de songer que la nature nous parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Victor Hugo, déjà au 19e siècle. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors aujourd'hui, notre émission sera glaciale, car consacrée à la cryosphère, à son état, à son avenir, avec notre invitée, que j'ai le plaisir de recevoir à nouveau, puisqu'elle était déjà venue, elle m'a rappelé, c'était en 2021, je n'en avais plus souvenir, de la date, mais pas de son passage, Lydie Lescarmontier. Et puis nous commenterons ensemble quelques brèves d'actualité avant de vous donner quelques idées de lecture. Bonjour Lydie Lescarmontier.
Bonjour Jacques.
Glaciologue, auteur aussi, hein, vous avez écrit un certain nombre de livres, on les rappellera à la fin. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome de l'École supérieure agronomique de Toulouse à l'ENSAT, où nous recevons souvent certains de vos collègues dans cette émission. Vous avez étudié le glacier Mertz. Alors si les gens veulent savoir, les auditeurs veulent savoir ce que c'est, eh bien ils liront votre livre dont je rappellerai tout à l'heure le titre et l'éditeur. Vous avez travaillé à l'université de Tasmanie en Australie, hein, ça vous êtes rapproché un peu du glacier parce qu'il est vraiment au sud. Vous avez fait une thèse franco-australienne avec donc une double thèse finalement, hein, avec Richard Coleman à l'université de Tasmanie et Benoît Legrésy au Lagos, tout tournant bien sûr autour de cette histoire du glacier Mertz. Alors vous avez fait beaucoup de choses, hein. Vous êtes parti vous installer à Canberra, vous avez arrêté votre carrière de chercheur ou de chercheuse plutôt pour vous consacrer à l'éducation au changement climatique. Donc il faut du courage parce qu'il y a un énorme travail, hein. Ça c'est vraiment, vous êtes une espèce de missionnaire finalement pour une organisation qui travaille sous l'égide de l'UNESCO, c'est ça ?
Exactement.
Vous pouvez peut-être rappeler son nom ?
C'est l'Office for Climate Education, l'OCE,
voilà,
basé à Paris.
Voilà, et puis vous êtes directrice des actions antarctiques au sein de cette ONG ?
Alors, c'est une autre ONG,
une ONG.
Qui s'appelle ICCI. C'est une ONG américaine qui fait du plaidoyer auprès des décideurs politiques.
Eh bien, elle va avoir pas mal de travail.
Oui,
c'est
aussi.
Bien, c'est bien. Vous êtes également la marraine de la ville de Bourges.
Hein, c'est, oui, de la candidature pour la capitale à la culture.
De la culture, bon, c'est très bien, auprès de Hervé Le Tellier, de son joli prix Goncourt 2020, un livre extrêmement sympathique. Et puis, vous avez été élue parmi les 40 femmes les plus influentes de 2021 par le magazine Forbes, dans le cadre de votre engagement pour le climat, chevalier de l'Ordre national du mérite. Et puis, vous avez une école élémentaire à Bourges qui porte votre nom. C'est l'école de votre petite enfance, finalement.
C'est ça, oui.
Donc, une très jeune femme, déjà une carrière bien remplie. Et comme je l'ai dit, un travail de missionnaire que je salue, parce que franchement, il doit falloir avoir beaucoup d'optimisme quand vous vous levez le matin, non ? Toujours l'envie de se battre, hein ?
Oui, oui, toujours. Bah oui, moi, je pense que mon optimisme, je l'ai puisé dans l'émission que j'ai pu faire dans les régions polaires. Et puis aussi le fait que bah, je suis une maman, une jeune maman. Donc voilà, aujourd'hui, je peux pas regarder ma fille en disant j'ai laissé tomber l'affaire. Donc, ouais.
Non, donc, vous n'avez pas fait partie de ces jeunes parents qui finalement se disent qu'ils ne vont pas procréer parce que non, ça ne vaut plus la peine de laisser aux enfants une planète dans un état pitoyable ?
Et oui, non, mais je comprends très bien cette réflexion. Hein. Moi, c'est pareil, j'ai eu des enfants, moi, j'ai un enfant tard, donc c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi. Mais pour moi, l'engagement, l'envie de lutter, ça va complètement avec le fait de vouloir des enfants. C'est de l'espoir, en fait. On fait ça pour eux. Donc pour moi, tout avait un sens, en fait, dans cette direction-là.
Oui, durant les 40 Glorieuses, on n'a pas fait trop de choses pour eux quand même. Hein.
Non, c'est sûr.
On leur a bien savonné la planche. Alors que vous êtes une spécialiste de la cryosphère. Qu'est-ce que c'est la cryosphère? Savant, presque savant, quand même bien passé dans le langage courant.
Oui, on en parle de plus en plus avec mon plus grand plaisir. La cryosphère, c'est l'ensemble des réservoirs de glace qu'on a sur Terre. Donc en général, on les divise en deux grands groupes. On a ce qu'on appelle les glaces continentales qui sont formées à partir des précipitations de neige sur les continents. Donc là, on a les glaciers, on a les calottes polaires. Et sinon, on a les glaces de mer, donc la banquise, qui est formée à partir du gel, en fait, de l'eau de mer, qui forme ensuite des petits cristaux qui s'appellent le phrasyle, qui s'agglomèrent et qui font de la banquise.
Donc la banquise, c'est de l'eau salée?
Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, c'est un processus qui rejette le sel. Donc, c'est que des cristaux qui sont formés à partir d'H2O, vraiment. C'est pas tout à fait ça.
Après, on a aussi le sous-sol, le pergélisol ou le permafrost, ça dépend si on est porté sur l'anglais ou pas.
Exactement, le pergélisol. Donc là, c'est l'eau qui est contenue dans le sol qui va geler dans les régions boréales ou en montagne aussi. Ça peut geler sur quelques dizaines de centimètres ou plusieurs mètres, mais c'est un endroit aussi qui change beaucoup aujourd'hui. Puis après, on a aussi tout ce qui est réservoir de neige, etc.
Il y a également des variations dans cette... j'imagine que l'été, l'hiver, même sous ces latitudes, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Non, effectivement, il y a vraiment...
volume.
Il y a vraiment
glace,
des fluctuations, hein. Oui. Alors si on regarde par exemple la banquise, elle va avoir un maximum d'extension à la fin de l'hiver, donc à la fin de cette période froide, où du coup elle va pouvoir se recréer, et au contraire, la surface va s'amenuiser en été, et puis à la fin de l'été, en général au mois de septembre, on a ces minimums dont on parle en fait souvent dans les journaux. Donc en Arctique, le maximum d'extension, il peut aller jusqu'à 19 millions de kilomètres carrés. En Antarctique, c'est 16 millions. Et en Antarctique, c'est plutôt 19 millions de kilomètres carrés. Et c'est pareil pour le pergélisol, etc.
Alors pour les situer, parce que beaucoup de gens confondent les deux, et moi je les ai confondus longtemps aussi, il y a l'Arctique et il y a l'Antarctique.
Oui.
L'Arctique.
C'est ce qui est le plus proche de nous, donc c'est ce qui est autour, la région qui est autour du pôle Nord.
Voilà.
Donc c'est là où on va trouver les ours blancs, donc c'est en général facile de se rappeler. Donc c'est vraiment l'océan Arctique qui est entouré ensuite d'un ensemble de continents. Il y a la Russie, il y a l'Alaska, il y a le Groenland qui appartient au Danemark, etc. Et puis ensuite vous avez l'Antarctique, donc là c'est la région qui entoure le pôle Sud. C'est un continent qui fait 25 fois la surface de la France. Et qui est entouré d'un océan. Donc les géographies, même si c'est deux régions polaires qui peuvent avoir des climats un peu similaires, les géographies sont très différentes finalement. Tout est inversé.
Et les ours, on ne les trouve qu'au nord. Il n'y en a pas dans...
Qu'au nord. Moi, je dis souvent que s'il y avait des ours au pôle sud, on n'aurait plus de manchots, parce qu'ils ne savent pas voler. Donc on a des manchots au pôle sud. Et puis,
mais ils ont aussi leurs prédateurs.
Oui, bien sûr, oui, dans les mers.
L'épaisseur moyenne de l'Antarctique?
Alors, l'épaisseur moyenne, c'est 2,5 km, avec des maximums qui peuvent aller jusqu'à 4 km. La calotte du Groenland, qui fait à peu près un dixième seulement en volume de l'Antarctique, on est plutôt autour de 2 km d'épaisseur, en moyenne.
Donc, j'ai lu, et je pense que c'est d'ailleurs dans votre livre, donc vous ne me démentirez pas, que ça représente 67% de l'eau douce qu'il y a sur Terre.
Oui, je pense que c'est ça, c'est même peut-être un peu plus, oui.
À peu près, hein, oui. Et si l'Antarctique venait à fondre, le niveau marin augmenterait de 60 mètres, c'est ça?
Oui, un petit peu moins, peu 57, près. 58 mètres, oui.
On
n'est plus à ça près.
Quand on sera là, on ne sera plus vraiment à ça près. On parle aussi de vélage, alors c'est un très beau mot quand on vient de la campagne comme moi. Qu'est-ce que c'est que le vélage d'un glacier?
Alors il faut savoir qu'en Antarctique, quand on regarde sur l'ensemble de la dynamique en fait, de la calotte, il y a des endroits qui sont vraiment charnières qui s'appellent les glaciers émissaires. Et c'est ce que moi j'ai étudié en thèse, c'est ces glaciers qui descendent de la calotte, qui vont ensuite vers les océans et qui sont vraiment à l'interface entre la zone d'accumulation de neige qui est sur la calotte, qui va ensuite se transformer en glace, Et la zone qui, en fait, se réchauffe le plus en Antarctique, qui est l'océan. Et en fait, ces glaciers, ils vont avancer vers les océans et au bout d'un certain moment, soit parce qu'ils sont fragilisés par une fonte, ou alors parce qu'ils sont fragilisés par une pression mécanique. Donc, il faut savoir qu'il va y avoir de la houle, il va y avoir de la marée, etc. Donc, ce glacier, il va vraiment bouger. Et au bout d'un moment, il va casser. Et lorsqu'il va donner un iceberg, donc un morceau de lui-même, bah, du coup, on appelle ça un vélage. C'est vraiment le processus où un glacier se dédouble finalement et donne un iceberg.
Voilà, un iceberg qui va. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les icebergs, finalement? Ils voyagent, ils fondent et...
Alors, en général, en Antarctique, comme il y a vraiment un courant autour du continent qui est très fort, qui est le long de la côte, ils restent coincés, finalement, à cause de ce courant pendant longtemps. Moi, il y a des icebergs que j'ai suivis qui restaient 20, 25 ans au même endroit. Et à un certain moment, donc soit parce que les courants changent, soit parce qu'ils se mettent à fondre, ils perdent des morceaux, etc., ou parce qu'il y a aussi d'autres icebergs qui viennent les heurter, ils vont partir en fait vers cette grande virgule qui est la péninsule antarctique et vont arriver dans l'océan austral. Et à partir de ce moment-là, en général, ils circulent plus au nord et puis ils fondent au cours de leur voyage.
Il n'y a pas de mouvement inverse, c'est-à-dire qu'un iceberg qui reviendrait s'agréger?
Non, c'est pas quelque chose qu'on voit. Ce qu'on peut voir, c'est des icebergs qui vont être peut-être bloqués par la banquise. Donc, on peut imaginer qu'un iceberg se détache et puis ensuite, il y a l'hiver qui arrive, la banquise se forme autour de lui et ils sont maintenus en quelque sorte. Ils peuvent être protégés comme ça. Les glaciers aussi peuvent être protégés par cette banquise, mais non, on voit pas trop de... Parce qu'en fait, leur formation, elle se fait vraiment sur la calotte, à travers l'accumulation de neige. Donc, c'est pas un processus qui se fait ensuite.
Alors, ces glaciers font partie du système Terre, hein, qui donne le climat. Ils ont une influence sur le climat. À quel niveau?
Alors, à plein de niveaux différents. C'est vrai qu'on dit souvent que les régions polaires, en plus, bon, c'est pas seulement les glaciers, c'est vraiment ces régions polaires, c'est vraiment des piliers du climat. Alors pourquoi? La première raison, c'est que c'est des endroits qui ont une couleur blanche. Et cette couleur fait qu'en fait, elles vont réfléchir, elles vont agir un petit peu comme un miroir et réfléchir les radiations solaires.
Ce qu'on appelle l'albédo, c'est
ça. Exactement.
J'ai beaucoup appris à travers vous. Hein,
Exactement. Donc elles vont renvoyer ces radiations solaires et donc elles vont limiter finalement le réchauffement. C'est comme des grands climatiseurs en quelque sorte. Et le problème aujourd'hui, c'est que ces régions-là, comme elles fondent, notamment la banquise fond extrêmement vite, on perd ce pouvoir-là, et donc il y a un réchauffement et un emballement. L'autre aspect qui est important qu'on peut citer là, c'est aussi l'importance de la banquise, pas seulement à travers cette couleur, mais aussi, c'est ce qu'on disait, la banquise, c'est un endroit qui va privilégier la formation d'eau dense. Tout simplement parce que c'est l'eau H2O qui va se former, qui va cristalliser pour former de la banquise. Et donc le sel qui est contenu dans l'eau de mer va rester autour de cette banquise et va s'accumuler dans l'eau libre. Et au bout d'un moment, cette eau libre, elle va être tellement chargée en sel, puis elle va être aussi très froide, qu'elle va être beaucoup plus dense que le reste et elle va plonger en profondeur. Et en fait, ce mouvement-là, c'est un mouvement qui participe à la circulation mondiale, qui explique pour 60% de nos climats locaux. Donc, c'est vraiment une composante qui est extrêmement importante. Et par exemple, la banquise arctique, elle permet de produire des circulations telles que le Gulf Stream, qui a vraiment un impact sur notre météo ici en France, en Europe de l'Ouest de manière générale. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est primordial. Et puis de manière générale, en fait, c'est des régions qui vont vraiment stabiliser le climat à travers les variations de densité, comme on a pu le voir, les variations de température, etc. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, la disparition de la banquise en Antarctique a une influence sur les moussons, notamment en Inde ou en Malaisie ou même en Amérique du Sud. Donc tout est lié. Et donc, c'est vraiment important, du coup, de les maintenir pour pouvoir maintenir le reste.
Ça a une influence aussi sur les vents, j'imagine, parce que il y a certaines températures au niveau de l'équateur, d'autres qui ne sont pas du tout les mêmes au niveau des deux pôles. À partir du moment où ça se réchauffe, qu'est-ce qui vient de ces vents? Est-ce qu'ils sont toujours aussi forts? On parle c'est les vents jet qui sont très hauts, à 10 km, hein, qui normalement poussent un peu tous ces nuages. Aujourd'hui, il semblerait que ça ralentisse tout ce système.
Oui, effectivement. Mais c'est un petit peu le même lien que pour la mousson aujourd'hui. On sait que la disparition de la banquise en Arctique exacerbe les événements extrêmes qu'on connaît en Europe. C'est-à-dire toutes les périodes de vagues de chaleur ou au contraire les périodes de vagues de froid. Ça a tendance en fait à stabiliser des périodes de climat un peu extrême qu'on allait avoir dans le passé sur quelques jours seulement, alors que là, elles sont vraiment bloquées. De manière générale, il faut imaginer que, en fait, quand on perd la banquise, on perd cette stabilisation des échanges entre l'océan et l'atmosphère. Donc là, tout à l'heure, on parlait de l'albédo. Ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, la banquise, c'est un milieu qui est sec. Et lorsqu'elle fond, en fait, elle laisse la place à l'océan qui est beaucoup plus humide. Et du coup, l'atmosphère va se charger en humidité et du coup va retenir beaucoup plus de chaleur aussi, parce qu'une atmosphère qui est humide retient plus de chaleur. Et donc va complètement changer en fait les circulations. Moi, je l'ai très bien vu en travaillant en Arctique. Au cours des années, on avait davantage de tempêtes pendant l'été, alors que c'était des périodes en général qui étaient plutôt calmes. Et c'était des choses qui étaient absolument anormales. Et ça, c'est vraiment lié à la disparition de ce milieu-là.
Et c'est des choses que vous avez constatées il y a déjà longtemps.
Oui, il y a déjà longtemps, oui.
Et qui ont tendance à s'accélérer.
Oui, s'accélère. Là, ce qu'on voit de manière très nette, en fait, avec le climat, c'est qu'on avait des sortes de tendances linéaires avec des événements qui progressaient au cours du temps. Aujourd'hui, on a vraiment des cassures, finalement, dans ces progressions des moments. Par exemple, pour le suivi de la banquise en Antarctique, en 2022, 2023, 2024, on a vraiment eu des courbes qui ressemblaient à rien, en fait, de ce qu'on avait pu voir auparavant. Donc, on avait des disparitions massives, vraiment des changements abrupts en fait, de comportement qui montrent qu'on est en train de passer des sortes de seuils de rupture.
C'est des changements, il y en a toujours eu dans le passé, dans les millions d'années qui nous ont précédés. Qu'est-ce que ces changements qui arrivent aujourd'hui, qu'est-ce qui les caractérise et en quoi sont-ils plus dangereux que les changements que l'on a connus dans le passé, voire des passés très lointains?
En fait, tout est lié à la vitesse des changements. Dans le passé, on a eu des changements, mais qui se faisaient sur des dizaines ou des centaines de milliers d'années. C'est un peu le temps d'évolution des cycles climatiques. Alors qu'aujourd'hui, tous ces changements, on les fait à l'échelle de 150 ans. Donc oui, la Terre, elle a changé. Aujourd'hui, le taux de CO2 qu'on a dans l'atmosphère, il est équivalent à celui qu'on avait il y a 3 millions d'années. Donc, la Terre a déjà connu ça, mais après, les espèces, finalement, avaient vraiment des milliers, des dizaines de milliers d'années pour évoluer vers des écosystèmes qui changeaient complètement. Là, aujourd'hui, on est en fait dans les limites d'adaptation parce que tout va trop vite. Donc, on ne donne aucune chance, en fait, que ce soit à l'homme ou que ce soit à la biodiversité, d'évoluer en même temps que ce climat-là.
Et les glaciers de montagne? Oui. Je crois qu'ils sont quand même bien menacés. On en a dans les Pyrénées, on en a dans les Alpes. On en a pour combien de temps à les avoir là?
Alors, ça dépend en fait. C'est vraiment quelque chose qui est très lié à ce qu'on va choisir en fait comme futur. Parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas scellé, même si avec l'élection de Trump, on sait qu'il y a quelques objectifs qu'on va devoir oublier. Mais ce qui est certain, c'est que si on reste sur la progression des émissions qu'on a aujourd'hui, puisque vraiment la température globale, elle est complètement liée à nos émissions de gaz à effet de serre, qui malheureusement ne diminuent pas même.
Mais voire augmentent d'ailleurs.
Oui.
Notamment le méthane, je pense qu'il doit augmenter.
Je ne sais pas exactement. Non, je ne peux, peux pas m'aventurer sur ça.
Parce qu'on a le CO2 et on a le méthane principalement. Il y en a quelques autres, mais enfin, ce sont surtout ceux-là.
Oui.
Je crois que les gens ont du mal à comprendre le mécanisme. En réalité, c'est relativement simple. On émet des gaz qui se bloquent dans l'atmosphère et qui bloquent le retour de la chaleur vers cette même atmosphère. Hein, les rayons du soleil tapent sur la Terre, ils devraient repartir. Et là, ils ne peuvent plus repartir parce qu'ils sont coincés par ces gaz qui font une espèce de,
comment
de
dirait, couverture,
de, couverture, hein, de couvercle au-dessus de la Terre.
Oui, on peut imaginer un petit peu ça comme ça. En fait, ces gaz, ils vont interagir avec les rayons infrarouges qui sont liés à la température. Et donc, plus la Terre se réchauffe, et plus ils vont interagir avec ces rayons-là. Et c'est vrai que des gaz à effet de serre comme le méthane ont un pouvoir qui est extrêmement fort, qui est bien plus fort que le CO2.
On dit à 28 fois plus que le CO2, c'est ça?
Oui, ça dépend si on prend son temps de résistance en fait, dans l'atmosphère. Mais oui, c'est à peu près ça. Ouais.
Il s'évacue plus vite, mais il réchauffe infiniment, infiniment plus vite.
Exactement.
On fait une pause musicale pour se réchauffer, pour partir vers un monde un peu plus doux, celui de la musique. Qu'est-ce que vous avez choisi, Lydie Lescarmontier?
Alors moi, j'ai choisi un morceau de Lassa qui s'appelle « De la cara a la pared ».
Soñar.
Voilà, notre pause musicale est terminée. Nous retrouvons Lydie d'Escarmentier, qu'il avait choisi, notre glaciologue. Et nous parlons bien évidemment de ce qui se passe au niveau des pôles, au niveau des glaciers Alpes et Pyrénées. On va ne citer que cela, mais bon, les Pyrénées, c'est un peu perdu maintenant, c'est fini.
Oui, on considère qu'on a encore des glaciers pour 10-15 ans.
Il y en a 17, hein, glaciers, j'ai vérifié, glaciers du massif qui vont disparaître sous 10 ans.
C'est ça.
Superficie réduite de plus de 90%, je crois. Donc c'est... Voilà, c'est terminé.
Oui, pour les Pyrénées, c'est terminé. Pour les Alpes, il y a encore, on a encore la possibilité aussi, aujourd'hui d'en garder bien la moitié en termes de volume. Mais tout est lié en fait aux trajectoires qu'on va choisir. Si on arrive à rester sur ces 1,5 degrés, ce qui encore une fois me paraît assez difficile avec les élections américaines.
Ah ben il n'y a pas que ça, mais de toute façon on va les dépasser allègrement. Il y en a qui parlent de 4 degrés à la fin du siècle.
Oui, alors de 4 degrés ça dépend. Si on regarde vraiment les moyennes, ouais. on est plutôt autour de 2,7 3 degrés. Après oui, 3 degrés ça veut dire 4 degrés en France, oui.
Les endroits où on va se retrouver à 4 degrés on va faire de la vigne en Suède, hein. Déjà ça commence, on en fait dans le Nord, on en fait même sur, j'ai vu ça sur les terrils. Ils sont en train de planter de la vigne, il paraît que le vin n'est pas si mauvais que ça. On va s'attendre quand même à de grands bouleversements. Et puis 4 degrés sur des zones humides, ça devient invivable, j'imagine.
Oui, après, je pense qu'il ne faut pas... Oui, bien sûr, mais il faut quand même se dire que... moi, je me rappelle très bien d'une intervention que j'ai eue l'année dernière. C'était à la COP de Dubaï. Et je discutais avec le président de la Suisse et puis il me disait « Non mais de toute façon, aujourd'hui, on est parti sur les 4 degrés et puis en gros, acceptons-le. » Et je pense qu'à partir du moment où on va l'accepter, on laissera tomber. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui l'accord de Paris, parce que c'est quand même un engagement international et on doit tout faire pour s'y tenir.
D'où les Américains s'étaient retirés, ils y sont revenus avec Biden et là, ils vont en ressortir.
Oui, bien sûr, ils vont en ressortir et... Mais il faut, ça ne veut pas dire que s'ils sortent, il faut que nous, on laisse tomber de notre côté. Donc, je pense que c'est encore important de se dire, le verre est toujours à moitié plein et gardons-le tel qu'il est aujourd'hui.
C'est l'optimiste qui parle, mais bon, l'êtes-vous tout le temps? Je ne vous demande pas la réponse. cette fonte des glaciers et également la fonte des pôles, ça va entraîner nécessairement une montée des eaux?
Oui, là on sait qu'on est à peu près condamné, si on continue sur les mêmes trajectoires, à environ 1 mètre d'augmentation du niveau marin d'ici la fin du siècle.
Donc 1 mètre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans les bords de mer, beaucoup de gens qui vivent dans les deltas, des pays par exemple comme la Camargue c'est plat, hein. Si ça monte d'un mètre, la Camargue n'existe plus. Venise, globalement, qui elle s'enfonce aussi pour d'autres raisons, qui n'ont rien à voir avec le changement climatique, des raisons physiques, mais si l'eau monte d'un mètre, c'est terminé aussi.
Ah oui, les bouleversements sont énormes, on ne se rend pas compte. En France... 1 mètre, ça veut dire que même une ville telle que Bordeaux est touchée. Donc il y a des parties de Bordeaux qui ne seront plus vivables. C'est, oui, Le Havre, c'est Arles, par exemple, c'est La Rochelle. C'est vraiment un grand nombre de métropoles françaises pour ce qu'on connaît. Après, aujourd'hui, on sait que des pays tels que les Vanuatu sont déjà condamnés avec quelques centimètres de hausse du niveau marin. Et là, par exemple, l'Australie s'est engagée à accueillir les réfugiés climatiques. Mais les conséquences, elles sont globales. Et ce n'est pas juste un déplacement physique. C'est qu'il y a aussi des endroits où l'eau salée va venir infiltrer les nappes phréatiques. Et donc, c'est de l'eau potable qui sera moins disponible pour les populations. Donc oui, il faut commencer aujourd'hui vraiment à s'adapter à ces changements-là, parce que ça va impacter la géopolitique mondiale.
Ouais. Oui, surtout l'eau, hein, puisque si le XXe siècle a été marqué, c'est la géopolitique du pétrole, là, ça va être la géopolitique de l'eau sur ce XXIe siècle. Et l'eau, elle ne se crée pas, l'eau. Hein. On a un certain volume d'eau sur la planète et on fait avec.
Exactement,
et là, ouais. Si en plus une partie est pourrie par le sel, parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit, c'est des volumes en moins et donc avec des hommes en plus, puisque on s'accroît quand même. Il y a des problèmes démographiques, il y en a trop à certains endroits, pas assez à d'autres, il y a des bouleversements, mais l'eau c'est fondamental. Sans eau, l'homme ne peut plus vivre.
Complètement.
Donc là, que va-t-il se passer ?
Bah ça, moi, je sais pas. J'ai pas de boule de cristal.
Vous dites, Lydie Escarmentier, il faut s'adapter. Oui, il faut s'adapter, mais est-ce qu'aussi il ne faut pas combattre la cause ?
Parce que s'adapter, ah, complètement. S'adapter, de toute façon,
c'est un minimum, hein, mais c'est, le problème ne sera pas résolu parce qu'on se sera adapté. Il sera toujours présent.
Oui, et c'est ce qui manquait un petit peu sur le plan d'adaptation, d'ailleurs, qui est sorti il y a quelques semaines.
Oui, enfin, ça, c'est qu'aujourd'hui, un papier qui n'a aucun sens.
Il a quand même du sens parce que déjà, il met en place des choses, des objectifs, mais aujourd'hui, de toute façon, l'adaptation ne peut pas aller sans l'atténuation. Et l'adaptation, elle a aussi des limites qui sont liées complètement au scénario qu'on va accepter ou non, et vers lesquels on se dirige. Donc oui, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, on est un petit peu en train de se frotter aux limites. Donc c'est sûr qu'il faut agir sur la cause.
La fonte des pôles, et notamment du pôle Nord, va aussi ouvrir de nouvelles routes maritimes, vraisemblablement.
Ouais, c'est déjà le cas, d'ailleurs.
Hein, oui, ouais, je pense que les brise-glace russes sont très bons en brise-glace, hein, les Russes.
Oui.
Ils ont des brise-glace très performants. On va avoir de nouvelles routes, on va aussi avoir de nouvelles possibilités de forage, puisqu'on s'est dégagé, on sait qu'il y a du pétrole dessous. Il y en a un peu partout, d'ailleurs. Hein. On sait qu'il y a du pétrole, donc on va accélérer le changement climatique, puisqu'on va forer. Donc si on va forer, c'est que l'on va dépenser ce pétrole pour différentes utilisations, et donc on va renvoyer tout ça dans l'atmosphère. Donc c'est un cercle vicieux et en pleine accélération.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ben après, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans légiférer, sans avoir des programmes qui sont forts et qui sont tenus par nos gouvernements.
Il faudrait le pôle, c'est cinq pays, hein, l'Arctique, c'est la Russie, le Canada, les États-Unis, le Danemark par le Groenland, bien sûr, et la Norvège.
Oui.
C'est eux qui ont la main là-dessus. Et on va pouvoir légiférer, ce qu'il en est des lois, surtout quand vous êtes avec la Russie qui vous envahit un pays, quand ça lui chante, demain, on ne va pas les empêcher de forer, on ne va pas les empêcher d'envahir le sous-sol. En 2007, il y a un sous-marin russe qui est allé planter un drapeau au fond de l'océan Arctique pour marquer son territoire. Bon, c'était un geste, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais ça veut dire quand même quelque chose dans l'état d'esprit.
Ah, bien sûr, mais les enjeux autour de la géopolitique, ils sont énormes, ils sont absolument énormes. Mais j'ai envie de dire que c'est le cas pour la géopolitique mondiale, dans un contexte qui va être complètement changeant, où des zones sont extrêmement exposées, avec des populations qui sont vulnérables. Avec aujourd'hui, on voit, dans des contextes un petit peu de crise qu'on est en train de connaître aussi, on voit l'impact très direct. On est quelques jours après les élections, donc on voit qu'aujourd'hui, que ce soit en France ou aux États-Unis, plus la situation est difficile, plus on va chercher les extrêmes en se disant ces gens-là vont nous aider à améliorer notre quotidien, ce qui est absolument pas le cas.
Alors, je ne sais pas si on va chercher les extrêmes ou si c'est les extrêmes qui disent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre,
ce qui
s'appelle le populisme.
Oui, les deux. Non, pour moi, les deux sont complètement liés. Et en plus, aujourd'hui, c'est quelque chose aussi qui est de plus en plus documenté, c'est que c'est ce qu'on a vu pendant la crise Covid, les gens qui ont un intérêt vraiment aussi à développer ces crises pour quelques multinationales, une poignée de personnes qui savent que de toute façon, ces contextes-là sont propices à un enrichissement.
Vous pensez aux pétroliers ?
Aux pétroliers, mais pas que. Je pense à... Ouais, non, à plein de... Je vais pas m'avancer plus que ça. J'ai pas envie de me lancer en politique. Mais non, je pense que vraiment, on est dans des contextes qui sont extrêmement difficiles et au contraire, où il faut absolument pouvoir se projeter dans l'avenir et puis avoir des lignes qui sont toutes tracées et arrêter un peu ce qu'on a tendance à faire, c'est-à-dire chercher les extrêmes pour trouver des solutions, parce que c'est pas ça qui va nous sauver. Ouais.
Oui, mais ça fait combien d'années qu'on le dit ? Il y avait déjà le club de Rome, hein, c'est ce qui avait été dit. Tout ce que l'on dit aujourd'hui, tout ce qui se passe, on le sait, même on le sait bien avant, depuis peut-être les écrits de Jacques Ellul, hein, que vous connaissez. On sait tout ça, ça fait 50, 70 ans qu'on le dit, qu'on l'écrit, c'est documenté, c'est incontestable, et pour autant, le changement de direction ne s'est toujours pas effectué. On continue. Si, il y a quelque chose qui a changé, c'est qu'on continue, mais de plus en plus vite. Et donc, est-ce que l'Homo sapiens veut se suicider ?
Je ne sais pas. Je pense qu'il y a quand même un gros manque, un gros problème d'éducation de manière générale. Parce que si cette information-là, elle n'est pas accessible à tout le monde, c'est qu'il y a un travail à faire, en fait, là-dessus. Peut-être aussi que un des problèmes que je peux voir que j'ai vu évoluer aussi au cours du temps, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a tendance aussi, à l'heure des réseaux sociaux, à trouver à rallier des gens qui pensent la même chose. Et les extrêmes, du coup, ont de plus en plus de pouvoir et puis de conviction, en fait, dans ce qu'ils proposent, parce qu'ils se disent, on n'est pas seul. Donc oui, je pense qu'on est vraiment dans un tournant, mais ouais, ça va être compliqué.
Compliqué, tant bien sûr, vous l'avez compris, un euphémisme. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le permafrost ou pergélisol, parce que c'est pas neutre, il est en train de fondre, mais on ne sait pas trop ce qu'il contient. Oui. Et notamment peut-être quelques paquets de virus. Alors on a vu comment le petit Covid, finalement, c'est pas le Covid, hein, on a vu les dégâts qu'il a pu créer au niveau, beaucoup de morts d'abord, hein, quelques milliers de morts, une désorganisation complète de la planète, notamment sur le plan économique. Mais là, si ces virus qui sont dans le permafrost viennent, ils vont sortir, hein, de toute façon, puisque ça fond, donc ils vont être libérés. On ne sait pas ce qu'il y a dessous.
Non, alors moi j'ai envie de dire que finalement ces virus, c'est presque le cadet de nos soucis liés aux enjeux du pergélisol, parce que aujourd'hui, en fait, l'emballement lié au dégel du pergélisol est monstrueux. On sait que, alors aujourd'hui, on a des le pergélisol émet à peu près comme un pays tel que le Japon. Ouais. Si par contre on arrive à 2 degrés de réchauffement, ce serait plutôt comme un pays comme l'Inde. Donc ça deviendrait vraiment des premiers émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde.
Mais il émet surtout du méthane.
Oui.
Donc le plus réchauffant qui soit des gaz à effet de serre.
Oui, oui. Donc son impact, en fait, cet effet d'emballement, il est énorme. Et aujourd'hui, on a tendance, c'est vrai, à parler beaucoup des problèmes d'enjeux de santé publique, parce que oui, ça nous fait peur d'imaginer ces virus. Et puis le Covid, ça a été quand même très, très choquant, finalement, pour beaucoup de gens. On a tous, dans nos familles, on a perdu des proches. Mais sur l'échelle globale, je pense que cet effet d'emballement, il est bien plus terrible, oui.
Le GIEC, dans son rapport à AR5, indiqué que d'ici 2100, le pergélisol devrait perdre. Alors, il a deux scénarios. L'optimiste, c'est 8 à 40%, quand même une fourchette assez large. Et puis là, le pessimisme qui monte de jusqu'à 89%. Donc, ça veut dire que quasiment, il n'y aurait plus de pergélisol et donc tout serait rejeté dans l'atmosphère, plus les fameux virus qui vous inquiètent moins, parce que, enfin, il y a tellement de dangers qui nous menacent qu'on ne sait plus où regarder. Hein. Père, gardez-vous à gauche, père, gardez-vous à droite, hein, vous connaissez ça. Donc, ça aussi, c'est un risque colossal et qui est avéré aujourd'hui. Rien ne freinera cette fonte, donc on y est. Il va falloir gérer aussi ce problème-là.
Oui, mais après, encore une fois, il faut vraiment garder à l'esprit que aujourd'hui le changement climatique, c'est quelque chose qui est en place, qui est irrémédiable. Mais les scénarios associés sont vraiment très différents les uns des autres. Une planète à 4 degrés de réchauffement, ça n'a rien à voir avec une planète à 1,5 degré, qui n'a rien à voir avec une planète à 2 degrés, etc. Donc les dixièmes de degré, ça a l'air d'être minuscule et anecdotique, mais ça a vraiment des impacts très forts. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, si on arrive à rester sur une trajectoire à 1,5 degré, on arrive en fait à garder nos glaciers en Europe. 2 degrés, on sait que c'est déjà foutu. Désolée de parler comme ça, mais c'est vraiment le cas. Et des glaciers, il n'y en aura plus que dans les régions polaires. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'attacher en fait cette différence de scénario et de ne pas accepter. Alors moi je veux pas et j'accepterai pas la fatalité de dire de toute façon on y va, c'est foutu, et puis sauf qui peut finalement.
Donc vous avez une âme de résistante.
Oui, il faut. Parce qu'en fait, à partir du moment où on laisse tomber ça, en fait, on laisse tomber l'espoir, on laisse tomber la lutte, on laisse tomber l'envie de changer quoi que ce soit. Et ça, on peut pas se le permettre. Moi, j'aime bien vraiment cette image de se dire, dans le futur, en fait, les historiens, ils regarderont nos comportements, ils regarderont ce qui s'est passé. Il en restera toujours. On sait qu'il y aura toujours, il y aura effectivement des impacts énormes, mais il y a quand même des endroits sur Terre qui resteront habitables et malheureusement, voilà, il y a des populations vulnérables qui vont énormément souffrir, mais il y en a quand même qui seront là. Et je pense qu'on a un peu ce devoir-là de dire, on n'a pas lâché l'affaire en fait. Il y a quelqu'un que j'apprécie énormément, une spécialiste du numérique, Inès Leonarduzzi, qui dit qu'il faut qu'on soit de bons ancêtres. Et je pense que c'est vraiment cette idée de voilà, on a il faut pas accepter en fait notre sort pour les générations qui arrivent. Et c'est un peu ce que je veux faire. Voilà.
C'est Groschomard qui disait, je crois, je ne vois pas pourquoi je ferais quelque chose pour les générations futures quand elle fait pour moi. C'est un peu ce qu'on est quand même en train de faire, non ?
C'est notre problème, en fait, d'être humain. C'est vraiment ça qui risque de nous emmener à notre perte. C'est qu'on est incapable de se projeter et puis donc de préparer des choses pour les générations futures et puis de fonctionner vraiment comme un tout. Aujourd'hui, et encore plus qu'avant, on réfléchit avec notre propre nombril, et c'est ça qui va vraiment nous emmener à notre perte. Ouais.
Après, il y a de l'agitation qui est plutôt de la communication. Il y a eu le sommet international pour la cryosphère, je crois, à l'initiative de Macron, qui a été assez peu suivi. Il y a le One Polar Summit aussi,
C'est le même, ouais.
C'est le même, hein. Ouais. Bon, mais tout ça, c'est de l'agitation. Tous nos politiques nous font croire qu'ils s'en occupent, mais c'est pas du tout le cas. Et à tout niveau. Regardez ici, on fait une autoroute entre Toulouse et Castres, dont tous les scientifiques ont dit le mal qu'il fallait en penser. Ça n'empêche rien. On a ratiboisé toute une région, on a déforesté, on a exproprié. Tout ça avec le soutien des politiques locaux, présidente de région, Madame Delga, le président du conseil départemental, je ne l'ai jamais entendu se prononcer contre, et bien d'autres aussi.
Mmh. Oui, bah oui, ça m'attriste énormément qu'on ne soit pas capable en fait, de réfléchir dès maintenant.
Ça veut dire qu'on n'a que les hommes politiques qu'on mérite, mais là franchement...
Non, mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi en discutant, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut vraiment des hommes politiques qui aient des visions, qui aient envie de nous emmener vers des futurs beaucoup plus positifs et qui amorcent vraiment cette transition. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'on a affaire à des gestionnaires qui sont tenus en fait par leur économie locale. La 69, c'est exactement ça.
Qui ne sert à rien, parce que l'économie locale n'en sera...
Non, et puis moi j'habite dans le Tarn, oui, juste à côté, et je peux vous dire que la population locale est complètement contre. Mais voilà, il y a un intérêt économique, et puis on voit que c'est lui qui mène...
Un intérêt de lobbying aussi, surtout,
bien sûr.
Puisqu'on sait qui a initié ce projet, on va revenir dessus. Mais enfin, tout ça n'est pas clair, mais c'est quand même soutenu par les politiques locaux qui trahissent le mandat que leur a donné et qui trahissent leurs électeurs. Surtout parce que le bien-être de leurs électeurs doit passer avant tout le reste. C'est ça. Là, c'est pas tout à fait le cas. Allez, une pause musicale pour éviter de tomber dans le défaitisme, voire plus. On écoute Serge Reggiani.
La vie c'est comme une dent, d'abord on n'y a pas pensé, on s'est contenté de marcher, et puis ça se gâte soudain, ça vous fait mal, et on y tient, et on la soigne. Et soucis. Et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher. La vie.
Voilà, la vie c'est comme une dent et on sait qu'une dent ça peut faire parfois très très mal. Nous retrouvons notre glaciologue spécialiste de la cryosphère, Lydie Lescarmontier. Nous acheminons vers la fin de cette émission. On regarde un peu autour de nous ce qui se passe, Lydie Lescarpentier. Valence et ses pluies diluviennes qui ont tout noyé brutalement. Alors les esprits forts nous disent « Oh mais il y a toujours eu des inondations à Valence ». Oui, enfin là on est ailleurs et on est sur autre chose.
Oui, complètement. Bah, c'est un très bon exemple de non-adaptation en fait. Et puis c'est payer un peu le prix des politiques
qui ont été mal reçues.
Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr.
La boue a volé, il paraît.
Oui, oui. Non, mais je me sens vraiment désolée, en fait, pour ce qui s'est passé. Mais c'est terrible, en fait, quand on est dans cette position de travailler sur le climat, de pondre des rapports et d'expliquer, en fait, ce qui va se passer et de voir les news, en fait, et de voir vraiment ce qu'on a pu prédire sous nos yeux. Et malheureusement, en fait, Valence, c'est qu'un exemple, et j'espère en fait qu'on va quand même utiliser ce type d'exemple pour faire un peu mieux dans le futur. Ouais.
Dans votre travail quotidien, puisque vous plaidez toujours pour ces questions environnementales, vous pensez à Sisyphe des fois ?
À Sisyphe ?
Oui, celui qui poussait le rocher, vous savez, jusqu'en haut de la montagne. Le soir, le rocher dévalait, le lendemain, il recommençait. C'est pas un peu l'impression que vous avez de...
Si, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et puis c'est dur, hein. C'est dur. Heureusement, on a des possibilités d'échange entre collègues. On se soutient.
Voilà,
oui, oui, on se soutient. Puis c'est vrai qu'on est dans un milieu quand même extrêmement bienveillant, en fait, de gens qui ont la lumière. Et ça, c'est très important. Moi, je vois des gens qui ont des combats incroyables, qui ont complètement dédié en fait leur vie à ça. Et heureusement, je vois aussi plein de belles choses qui se passent.
Nous parlerons tout à l'heure des belles choses. La COP16 en Colombie, on n'a pas parlé de la biodiversité, parce qu'il y a le changement climatique, il y a la pollution, hein, on sait qu'elle est multiforme, mais il y a aussi la biodiversité qui s'effondre, et sans la biodiversité, vraisemblablement, l'Homo sapiens aura un peu de mal à survivre.
Oui, complètement. En fait, ces questions de climat et de biodiversité, elles sont totalement liées. C'est ce que montrent les rapports GIEC aujourd'hui. Il y a un article qui est sorti l'année dernière qui expliquait qu'on n'est pas capable de lutter contre le changement climatique si on ne maintient pas au moins 40% de nos terres sous forme naturelle. Donc voilà, les deux sont vraiment intriqués. Malheureusement, bah oui, ça a été un échec, parce qu'en fait, on s'aperçoit que plus on avance, plus les changements doivent être drastiques aussi, parce que malheureusement, on n'a pas anticipé tout ce qu'il fallait faire, et plus en fait, on a un recul aujourd'hui des gouvernements face à ça, qui se disent là, c'est compliqué et je ne veux pas forcément le faire.
Oui, en réalité, ils sont complètement dépassés parce qu'ils ne voient pas des solutions. On est allé tellement loin et dans le tel mauvais sens que un retour en arrière aujourd'hui paraît complètement impossible.
Oui, et pourtant, en fait, aujourd'hui, on sous-estime complètement l'impact sur les économies que va avoir le changement climatique.
Ça va coûter très cher.
Voilà.
Oui,
et en fait, c'est
changé. 8 fois plus cher que ça coûterait si aujourd'hui on mettait l'argent. Le problème, c'est que quand on regarde, par exemple, la France, hein, regardons devant notre porte, sinon à Lyon, on n'a plus de sous, donc.
Oui, 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 mais je pense qu'aujourd'hui... Alors encore une fois, je ne veux pas trop me lancer sur la politique parce que ce n'est pas mon domaine, mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut... C'est pas maintenant en fait qu'il faut régler la dette publique. C'est dans 20 ans, c'est dans 30 ans, mais c'est pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, des investissements massifs, on en a besoin. Et en fait, ce que montre aussi l'ensemble de ces rapports, c'est que le retour sur investissement, on va l'avoir très vite. Il y a vraiment, c'est ce que nous montre aussi.
Encore faut-il les faire, les investissements, Lydie Lescramontier.
Pardon ?
Encore faut-il les faire, les investissements, pour connaître le retour. Et là, on ne prend pas le chemin de les faire.
Non, bien sûr, parce qu'on a quand même une telle inertie aujourd'hui du changement. Il y a aussi, on parlait du lobbying, hein, faut pas, voilà, il est extrêmement présent. Donc, avec ça, c'est très difficile d'avancer.
C'est souvent doux aux oreilles de nos femmes et hommes politiques. Quand vous entendez certains qui vous parlent d'éco-terroristes, on croit rêver. Enfin, c'est vraiment la négation même, le déni même de la situation.
Oui,
c'est gravissime. On ne va pas reparler de l'élection de Trump. Tout le monde sait ce qui va se passer. On va essayer de l'oublier, mais elle va nous impacter de toute façon. Peut-être aura-t-elle un effet positif en obligeant l'Europe à resserrer les rangs et à devenir un peu plus réaliste, à sortir un peu du confort dans lequel elle croit être. Mais sur le plan du climat, les permis, il va se retirer de la colle de Paris, les permis de forage vont être multipliés, et donc, l'atmosphère va de nouveau s'engorger encore plus qu'elle ne l'est, si c'est tenté que ce soit possible. Donc là aussi, gros souci, n'y revenons pas. La COP29, alors une COP de plus, on pourrait se demander à quoi ça sert, peut-être que vous allez nous le dire. Elle va se tenir à Bakou, c'est demain ou après-demain, du 11 au 22 novembre. Alors Bakou, c'est l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, ils n'aiment pas beaucoup les Français. Je ne sais pas si vous avez prévu d'y aller, mais...
Non, pas cette année.
Voilà, il faut être discret. Il y a pas mal de Français qui y vont, mais qui n'ont pas souhaité communiquer. Depuis qu'on a apporté un soutien à Erevan, la guerre éclair au Karabakh, en fin 2023, une guerre qui s'est soldée, il faut quand même le rappeler, par l'exode de 100 000 Arméniens, c'est pas rien. Les Azerbaïdjanais ne nous aiment plus trop. Et c'est curieux qu'on aille faire ce type de réunion internationale dans des pays, déjà, le Quai d'Orsay a classé le pays dans sa liste rouge, je le cite, en raison du risque de détention arbitraire et de jugement inéquitable, c'est quand même pas rien. Et on va faire une COP, et c'est la troisième année consécutive, vous avez parlé de Dubaï où vous étiez, je crois, organisée par l'ONU, et ça se tient dans des États qui n'ont absolument rien à faire des droits de l'homme. C'est quand même un peu curieux, non ?
C'est le principe de la négociation internationale, c'est absolument tout le monde a le droit d'accueillir, il faut que les continents changent aussi au cours du temps. Donc si un pays se propose pour accueillir la COP, il a tout le droit en fait de le faire.
Il peut proposer de l'accueillir, on peut aussi choisir de ne pas y aller.
C'est pas comme ça que fonctionnent les négociations aujourd'hui. Donc, aujourd'hui on peut pas boycotter. Pourtant, moi je peux vous dire que c'était assez spécial l'ambiance à Dubaï, mais il faut accepter. Et puis après, je pense que c'est quand même... le principe, c'est d'inclure tout le monde, ce qui est bien en soi aussi. Il faut pas aujourd'hui, quand on travaille sur le destin du monde entier, donc il faut vraiment... Il faut vraiment emmener tout le monde en fait dans ces directions-là. Puis on voit que tout n'a pas été négatif à Dubaï malgré ce qu'on attendait.
Et la COP en soi, ça sert à quelque chose, ces COP ?
Oui, bien sûr, ça permet de... En fait, c'est le seul moment où il y a vraiment un temps d'échange sur les objectifs qui sont liés au climat. C'est vraiment central. Alors, bien sûr, on est tous attristés de voir que l'ambition n'est pas à la hauteur en fait de l'urgence. Mais on ne peut pas en fait se passer de ce type de réunion-là, parce que ça veut dire qu'en fait, on accepterait que le climat n'est pas un problème. Aujourd'hui, il faut vraiment se réunir pour en parler, pour mettre en place des accords internationaux.
On en parle, c'est clair, on en parle même tous les jours et tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on fait pratiquement au quotidien ?
Au quotidien, en fait, il y a des choses qui sont très pratiques, qui par exemple ont été décidées l'année dernière. Voilà, je vais vous donner un exemple. C'est combien est-ce qu'on alloue au fonds d'adaptation des pays vulnérables à la lutte contre le changement climatique. C'est pas juste travailler sur les objectifs, c'est aussi tout ce qui tourne autour. Donc, par exemple, là, c'était sur les tout premiers jours de la COP à Dubaï. On sait qu'il y a tant d'argent qui va être alloué pour les pays les plus vulnérables. Ça, c'était vraiment un impact concret. Et en fait, ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu la COP à Dubaï. Là, c'est pareil, le texte qui a été signé à Dubaï a réussi à stipuler pour la première fois qu'il fallait avoir pour objectif la fin des énergies fossiles. Donc ça aussi, c'est tout le monde le sait.
Mais ce que je veux dire, c'est que là, on vient de dire l'inverse.
De quoi, pardon ?
On vient de dire l'inverse avec l'élection de Trump. On n'en prend pas le chemin.
Non, mais c'est le principe de la négociation, c'est qu'au moins tous les autres pays qui se sont ralliés à ça sont obligés, même Dubaï en fait est obligé d'aller dans cette direction-là. Donc il faut, on peut pas trop laisser les. Bon, après, moi, je suis convaincue aujourd'hui que la négociation telle qu'elle est construite aujourd'hui ne fonctionne plus parce qu'il y a trop de blocages. En fait, il y a des pays qui, aujourd'hui, tels que la Russie, j'ai vu des gros blocages au niveau de l'Inde, etc., qui n'ont pas envie, en fait, de faire avancer ces négociations. Il y a un problème, mais on ne peut quand même pas s'en passer, en fait. C'est vraiment là où on fait avancer les choses.
Bon, ben voilà, vous venez de faire sans le savoir. L'avant-dernière rubrique de l'émission, dites-le, ça va mieux, que j'ai toujours beaucoup de mal à nourrir, mais vous l'avez fort bien fait. Alors, dernière rubrique, quelques conseils dits culturels, mais enfin, pour aller peut-être un peu plus loin sur le thème, qu'est-ce que vous avez choisi, Lydie Lescarmontier ?
Alors, moi, j'ai ramené un livre qui s'appelle « Tout le blanc du monde » de Alice Ego. Alors, je suis vraiment désolée parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais par contre, je connais bien le travail d'Alizé parce qu'elle m'a contactée il y a plusieurs années, au moment où elle commençait la rédaction en fait, de ce livre. Et j'ai vu aussi qu'elle avait contacté un ensemble de chercheurs, de glaciologues, de spécialistes, en tout cas des régions polaires, pour l'écrire. Et en fait, c'est un roman qui nous emmène en Antarctique sur une station scientifique et qui parle en fait des enjeux qui sont liés aux régions polaires, mais qui a aussi toute une dimension beaucoup plus légère finalement. Et j'ai vraiment hâte de le lire et de me retrouver de nouveau dans une station. Donc je suis sûre qu'il va être super.
Bon, ben voilà, nous l'espérons. Alors pour ma part, je vais citer votre livre sur lequel on apprend énormément de choses, La Voix des pôles, donc chez Flammarion, qui est un livre extrêmement agréable à lire pour les dons spécialistes. Et après, on en ressort beaucoup plus informé, beaucoup plus documenté. C'est très didactique et c'est tout à fait remarquable. Donc, La Voix des pôles, Lydie Lescarmontier, qui reprend un peu tout ce que nous vous avez dit aujourd'hui. Également, L'Atlas de l'Anthropocène de François Gémen, avec une postface de Bruno Latour, aujourd'hui décédé, aux éditions de Sciences Po. J'imagine que vous connaissez cet atlas, qui est très bien fait. On y parle de tout. Évolution démographique, urbanisation, pollution atmosphérique, détérioration des sols. On pourrait aussi parler, mais on en parlera dans cette émission des sols, catastrophes naturelles, accidents industriels, etc. C'est très bien fait. Là aussi, très didactique. Et puis, moi, je suis comme vous, je ne l'ai pas encore lu. Je suis dans le premier chapitre, après une introduction assez nourrie. Ça s'appelle « Les guerres du blé ». C'est d'Alessandro Stanziani. C'est un Italien, mais surtout un historien. Je crois qu'il travaille d'ailleurs en France et qu'il est à la Sorbonne ou au CNRS, je ne sais plus. « Les guerres du blé », c'est sous-titré « Une éco-histoire écologique et géopolitique ». Et c'est aux éditions La Découverte. Et là-dedans, notre historien Alessandro Stanziani se propose de nous expliquer pour quelles raisons des émeutes, des luttes pour la terre, des rivalités économiques et géopolitiques exacerbées, ainsi qu'une guerre de conquête se déchaîne encore autour du blé. Le blé, ça peut paraître quelque chose de tout à fait banal, ne le croyez pas, c'est le moteur de ce monde, du blé il y en a partout, il y a le pain, il y a les pâtes, il y a la pizza, imaginez, un monde sans pizza, un monde sans pâtes. Ce blé qui est une des assises de notre alimentation dans le monde entier, eh bien figurez-vous que là aussi ça impacte énormément la géopolitique. Et puis si vous avez envie de revenir lire chez Esprit Occitanie, qui n'est pas qu'une radio. Vous avez le feuilleton estival que j'ai signé, qui s'appelle Histoire d'eau, qui est à retrouver sur le site d'Esprit, dans la rubrique La radio, ça se lit aussi. Voilà, il y a 9 épisodes où on aborde à peu près toutes les problématiques touchant à l'eau sous quelque forme que ce soit. Et puis avant de terminer, je vous rappelle, là, un événement beaucoup plus festif et beaucoup plus agréable. Ce sera à Muret le 23 novembre 2024 à 20h30 dans la salle Horizon. Il y aura une soirée très très italienne où on va entendre un certain nombre de musiques de films avec une soprano, Morgane Bertrand, avec une comédienne, Simona Boni, avec un ténor qui s'appelle Jean-Pierre Furlan. Voilà, on va entendre 14 morceaux pour raconter l'Italie par le cinéma, des extraits de films projetés sur grand écran. Ça nous lavera un peu de toutes les horreurs que nous venons de raconter avec Lydie Lescarmontier, que je remercie d'être revenue à ce micro. C'était passionnant. C'est Arcania, une émission de Jacques Lavergne. Au bouton, il y avait Grégoire Nachet, que je remercie. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À très bientôt pour une nouvelle émission d'Arcania. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Vous voyez que moi aussi, Lydie, je suis un combattant. Belle journée à tous et à tous. Et puis, à bientôt. Vous revenez quand vous voulez.
Merci.